Les premières rencontres internationales fondées en 69 par Lucien Clergue.
J'ai appris la photographie sur le tas. C'est un pâtissier d'Arles qui m'a appris dans sa salle de bain à développer les photographies des films.
La motivation des organisateurs du Festival d'Arles tente à faire de cette manifestation non pas une foire industrielle, mais le trait d'union entre la création et le grand public.
Ce qui est beau avec la photo, c'est qu'il y a de la matière à regarder. Un truc d'artisan, quoi.
Depuis 42 ans, chaque été se déroulent les rencontres photographiques d'Arles. Pour la 7e année consécutive, du 10 au 12 juillet, un séminaire a été organisé par les Rencontres d'Arles, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture et de la Communication, l'INJEP, la Ligue de l'Enseignement et le CNDP. Pendant ces 3 jours au Théâtre d'Arles, artistes ou spécialistes présentaient le fruit de leur travail ou de leur recherche à un auditoire composé essentiellement de professeurs de français, d'histoire, d'art plastique, mais aussi d'intervenants dans les quartiers. L'idée était d'impulser des initiatives d'ateliers autour du langage photographique. Le thème du séminaire retenu cette année était « Voyage en photographie vers d'autres frontières ». Dans cette première émission, nous allons rencontrer Francis Joly, directeur adjoint de la Maison du Geste et de l'Image, qui coordonne le séminaire. Nous discuterons avec Philippe Brault, le co-auteur de Prison Valley, qui a laissé une partie du public sceptique. Nous entendrons donc des réactions, puis nous parlerons avec 2 des lauréats du concours photo des lycéens 2011. Mais avant tout, on s'immerge dans une des nombreuses expositions présentées à Arles, notamment From Here On au parc des ateliers SNCF, une exposition avec 36 artistes qui utilisent les nouvelles technologies numériques et dont le point de départ de leur travail est l'Internet, lieu virtuel où les images sont nombreuses. Le public du séminaire était convié à sa visite d'exposition et nous l'avons suivi.
Donc là, le travail de Mischa Henner avec 3 œuvres différentes. Cette œuvre qui s'appelle Paysage néerlandais, celle-ci qui s'appelle Sur la photographie et l'autre qui s'appelle Bliss. On peut commencer par celle-ci avec des images dont vous reconnaissez peut-être la provenance. Ça vient de Google Earth. Et Mischa Henner a fait ses sélections d'images de paysages néerlandais, donc avec une référence non dissimulée aussi à la peinture de paysages et avec l'invention du paysage par les Néerlandais, justement. Il a choisi des endroits qui ont été dissimulés. Si on lit les cartels, là aussi, c'est vraiment important de s'approcher des images. C'est une usine de munitions, c'est une annexe de l'ONU, une station-service, des zones qui ont été censurées sur Google Earth et sur lesquelles, en Hollande, et apparemment seulement en Hollande, on applique ce filtre Crystallize. Selon l'auteur, c'est le filtre Crystallize sur Photoshop. On applique ce filtre pour dissimuler, comme un treillis de dissimulation, et qui a la particularité de montrer, de focaliser le regard là-dessus, et de montrer qu'on a dissimulé. Donc de manière assez paradoxale, avec une esthétisation, une esthétique de la censure même. C'est pas l'artiste qui a fait ce filtre. C'est des images présentes, si vous cherchez ces endroits sur Google Earth, vous tombez là-dessus.
Exactement.
Oui. C'est la censure de l'État, des institutions qui ont désiré qu'on ne voit pas depuis en haut ces zones. Là, il est seulement dans la sélection.
Voilà donc en guise d'introduction à cette émission ce que pouvait entendre le public de ce séminaire d'Arles consacré au thème « Voyage en photographie vers d'autres frontières ». Écoutons maintenant Francis Joly, le coordinateur du séminaire.
Francis Joly, directeur adjoint de la MGI, Maison du Geste et de l'Image, qui est une structure culturelle parisienne, un centre de recherche autour de l'éducation artistique et culturelle. Et je représente le comité de pilotage qui a mis en place ce séminaire. Le comité de pilotage étant composé du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Culture, de l'INJEP, Institut National d'Éducation Populaire, de la Ligue de l'Enseignement et de l'École Nationale de la Photo d'Arles, en partenariat bien sûr avec les Rencontres d'Arles.
Parce que ça se passe donc pendant ces rencontres qui vont durer bien tout l'été. Vous avez l'habitude de vous retrouver pour ce rendez-vous, ce séminaire. Alors chaque année, forcément, il y a un thème nouveau. Cette année, c'est le thème de la frontière de la photographie, c'est ça?
On a appelé ça voyage en photographie vers de nouvelles frontières, c'est-à-dire qu'on va explorer tous les nouveaux rapports que la photographie entretient avec les autres arts. Alors on va tourner autour de la photographie et le cinéma, la photographie et la danse, la photographie et les nouveaux espaces publics, c'est-à-dire les espaces publics qui sont souvent virtuels maintenant. Voilà, on va essayer de réfléchir. On a autour du webdoc aussi, puisqu'on a Philippe Bro, auteur de Présent de Vallée, qui est intervenu. Donc c'est ça, on va essayer d'explorer où la photographie se niche maintenant dans les nouveaux médias et dans les nouveaux supports.
Parmi le public hein, qui assiste à ce séminaire, alors ce sont des professionnels, entre guillemets. Est-ce qu'on peut décomposer un peu bien ce public ?
Je pense que cette année, ça va être pareil que les autres années. On a 2/3 d'enseignants ou cadres de l'éducation nationale. L'autre tiers étant composé de personnes travaillant dans les structures culturelles, dans la médiation et aussi tout ce qui dans l'éducation populaire, les animateurs et autres. Voilà.
Comment avez-vous choisi ce thème finalement cette année, enfin, ce thème de la frontière qui nous amène effectivement au web documentaire, qui est une forme très très nouvelle hein, et qui utilise donc l'Internet.
Ça fait maintenant le 9e séminaire, on a abordé la photographie comme le lien social, la photographie et le numérique. Une année c'était Narcisse photographe, on a tourné un peu autour de tous ces thèmes et là il nous a semblé cette année qu'avec la fameuse révolution numérique qui fait plus que de se profiler, qui est maintenant bien présente, il nous a semblé que là c'était vraiment vraiment intéressant d'interroger la photographie et les rapports qu'elle a, comme je disais, avec les nouveaux médias. Bon, c'est pas vraiment nouveau non plus, parce que quand on voit par exemple qu'il y a une exposition Chris Marker ici avec la jetée qui est quand même qui ne date pas d'hier, mais qui posait déjà les questions sur les rapports, par exemple, de la photographie, du cinéma, de la narration.
À Orly, le dimanche, les parents mènent leurs enfants voir les avions en partance. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître, à leur cicatrice. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Avec ce bruit soudain, le geste de la femme, ce corps qui bascule, les clameurs des gens sur la jetée, brouillés par la peur. Plus tard, il comprit qu'il avait vu la mort d'un homme. Et quelque temps après, vint la destruction de Paris.
Mais disons qu'actuellement, de nos jours, ça se pose de manière beaucoup plus importante, parce que les pratiques des jeunes, notamment avec le web, on vient de le voir avec Philippe Bro et le webdoc, il peut y avoir une nouvelle lecture, des nouvelles fictions qui s'installent. Et c'est autour de ça vraiment qu'on voulait tourner.
Si on parle de Philippe Bro, hein, qui vient de présenter son Prison Valley, alors on s'aperçoit déjà que dans l'assistance, tout le monde ne connaissait pas hein, le principe du web documentaire qui, bah, c'est de l'interactivité. Donc là, Prison Valley fait intervenir la photo, la vidéo, le son, fait intervenir des parcours qu'on choisit. On peut aller à un endroit et si on n'a pas envie d'y aller, on n'y va pas. Enfin voilà, il y a une espèce de liberté finalement hein, du regardant. Et ça, c'est absolument nouveau. Et on a l'impression effectivement qu'il y a peu de personnes qui connaissaient ce principe. Et là, on se dit qu'il y a quand même un fossé qui peut se créer avec, si on pense au professeur, entre le professeur et les élèves qui, eux, maîtrisent quand même l'objet web. Hein.
Alors, vous avez entièrement raison, c'est que souvent, les jeunes sont bien en avance, non seulement dans la manipulation de ces nouveaux outils, ils sont légèrement en avance par rapport aux professeurs. Et là, les réactions, vous l'avez souligné, vous avez entièrement raison, comme vous l'avez vu, sont même parfois assez violentes. C'est-à-dire qu'il y a une méfiance absolument, et je l'ai ressenti tout comme vous, une méfiance de certains adultes, bon, peut-être de professeurs en l'occurrence, vis-à-vis de ces nouveaux médias. Quoi. Parce qu'à partir du moment, Prison Valley, où il faut s'inscrire, effectivement, donc moi je l'ai fait personnellement, bon, on s'inscrit, voilà, et puis c'est tout. On n'a pas des pubs ni autres, on n'est pas fliqué pour autant. Mais il y a une vraie méfiance et un certain désarroi, parce que bon, même si dans Prison Valley, il a conservé une narration, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller directement à la fin, on est obligé de passer par tout un parcours. on peut se balader un peu, quoi. Et j'ai senti, effectivement, vous avez raison, cette crainte par rapport à ces nouvelles lectures. Et justement, c'est ce qui nous semblait intéressant de montrer et de mettre en place un vrai débat, quoi.
Quelque part dans le Colorado, une ville paumée, Canyon City. On l'a fantasmée, cette ville, depuis le temps. Depuis qu'on avait lu cette phrase dans un journal. Canyon City, c'est la version clean de l'enfer. 36 000 âmes dans le comté, 13 prisons, un siècle d'uniformes rayés. Presque une ville modèle de ce que pourrait être le monde futur, avec ses prisons dernier cri, ses 16% de population incarcérée, et toute une économie, où même ceux qui vivent dehors vivent dedans.
Avec Prison Valley, web documentaire sur une ville du Colorado qui contient 13 prisons, nous étions au cœur du sujet sur les frontières de la photographie. Puisque ce documentaire d'un nouveau genre, mêlant son, images photographiques et vidéos, ne se regarde pas en continu comme un documentaire classique. Selon le scénario que l'internaute choisit, on lui propose d'aller à la rencontre de telle ou telle personne et à tout moment, on peut stopper le récit et revenir en arrière, emprunter d'autres chemins. Philippe Brault, son co-auteur avec David Dufresne, était présent au séminaire d'Arles. Il a parlé de son web documentaire à un public parfois méfiant ou carrément emballé par la forme choisie. Nous allons l'entendre et puis aussi écouter quelques réactions de professeurs pour savoir notamment s'ils utiliseront cette forme d'information d'un nouveau genre dans leur pédagogie.
C'est vraiment une recherche en étoile, complètement arborescente, et puis c'est la façon dont la pensée se construit par strates aussi et par processus d'élimination, mais aussi de retour en avant de certaines idées. Et je trouve que tout ça, on peut vraiment le mettre en œuvre dans l'interactivité, quoi. Donc, je suis pas de la génération qui a vu... Enfin, moi, je m'y mets, quoi. Mais j'ai trouvé ça formidable à faire fonctionner parce que je trouve qu'on a l'impression de rentrer un peu dans le cerveau, quoi, dans la pensée. Et ça, c'est formidable.
Et vous connaissiez Prison Valley auparavant ou pas ?
Oui, je l'ai regardé parce que, on a un projet avec toi, avec Philippe, à la Maison du Geste et de l'Image. Et donc, forcément, je l'ai regardé, je l'ai consulté à plusieurs reprises, pas en entier, par petits bouts, fragmenté et tout ça. Et puis après, sur la durée. Et bon, en plus de ça, j'étais prof d'anglais, il faut dire avant. Donc, voilà. Et puis les sonorités, et puis le mélange des langues aussi. Passer de l'anglais au français, etc. Tout ça m'a intéressé parce que c'est vraiment toute cette mixité, ce foisonnement de la pensée et puis après l'organisation de la pensée pour construire le documentaire qu'on peut regarder en une heure comme n'importe quel documentaire aussi, avec un vrai point de vue, tout ça. Enfin, moi, je trouve qu'il y a une éthique derrière ce projet qui est remarquable. Et c'est ce qui sous-tend le projet, cette éthique-là. Et dans ta parole, c'est pareil. Je trouve que tu es très en retraite et voilà. Et cette distance me semble indispensable pour juger de quelque chose.
Philippe Brault, donc vous êtes co-auteur de Prison Valley, donc ce web documentaire produit par Arte. C'était pas le premier web documentaire quand même, hein, il faut le rappeler. Il y en avait eu d'autres. Le Monde s'était essayé à un très bon web documentaire en Chine, mais c'était pas du tout la même forme que Prison Valley, qui était, me semble-t-il, un projet un peu plus costaud. Est-ce que vous avez été surpris par les réactions de votre auditoire ce matin, avec cette méfiance à l'égard du web documentaire? Est-ce que c'est de la fiction? Est-ce que vous essayez de nous embarquer sur un terrain qui n'est pas l'objectivité? Enfin, est-ce que vous avez été surpris par ça?
Non, moi j'ai pas été surpris parce que finalement ça correspond exactement à des réactions que j'ai déjà eues sur un peu la peur de l'inconnu. Encore une fois, d'ailleurs, il y a une question dans le web documentaire sur la peur, parce qu'à chaque interview, David a eu la très bonne idée en fait de poser à chaque personne interviewée, protagoniste du documentaire, et c'est, la peur c'est quoi pour vous? Et souvent c'était l'inconnu qui revenait. La peur du lendemain, c'est pas savoir ce qui va se passer demain, etc. Et finalement, les réactions sont assez proches de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a une société, on a des codes narratifs qui sont installés pour la télévision, pour le cinéma, pour la radio, pour l'écriture, etc. Et dès qu'on transcende les règles, dès qu'on franchit les limites, forcément, on est vulnérable et on se prend des scuds dans la figure. Mais c'est bien, c'est le jeu, et en même temps, c'est normal. Donc moi, les réactions ne m'effraient pas, et je les trouve en même temps à la fois très intéressantes, parce que c'est la seule façon de faire avancer en fait ces propos. Et ça crée en fait une véritable communication, même si là, en l'occurrence, on a aussi un problème de temps, la salle est grande, il y a du monde, c'est difficile de répondre à toutes les questions, je ne suis pas un grand orateur, voilà, donc ça n'aide pas, donc, mais bon, c'est intéressant.
Mais du coup, ça vous semble normal que, c'est ce qu'on sentait dans l'assistance, il y a un camp qui effectivement mettait un peu en doute, le camp des suspicieux, alors qui ne connaissaient pas forcément d'ailleurs l'outil Internet, ce qu'on pouvait y faire, comment, voilà. Et puis il y avait les autres qui vous félicitaient en se disant, ben voilà, vous utilisez correctement les outils multimédia voilà, qu'on peut voir sur Internet. Est-ce qu'il n'y avait pas ces deux camps finalement qui s'affrontent à chaque fois ?
Si, il y a deux camps, mais je pense que si vous voulez, en fait, je pense que les gens ne mesurent pas en fait l'espace de liberté qu'est Internet. Et en fait, ce serait absurde pour des gens qui racontent des histoires, qui consacrent leur vie à raconter des histoires, de ne pas utiliser ce terrain-là totalement libre. Par exemple, on a fait une narration de 60 minutes linéaire. C'est pas du tout un format télé, en général c'est 52 minutes. Bon, il se trouve que là, Arte est accepté parce qu'il n'y a pas de publicité, donc 60 minutes c'est possible. 60 minutes on peut. Bonjour, on aurait pu refaire une version linéaire de 3 heures, on n'avait pas la matière, mais on aurait pu très bien imaginer demain de faire une version linéaire de 3 heures parce que Internet nous l'offre. Et ne pas profiter de cette liberté qui nous est offerte, ça serait quand même dommage, quoi. Ça serait vraiment, vraiment dommage. Donc, non, les réactions, il y a deux camps, où probablement, il y a les sceptiques, il y a ceux qui vont plus de l'avant. C'est le jeu, je crois, et puis c'est aussi c'est normal. Enfin, c'est pas la première fois qu'on nous fait des remarques comme celle-là. Et on a été invité aussi dans des festivals documentaires qui sont des festivals vraiment documentaires classiques, où on nous attendait un peu au tournant, etc. On a été présenté, je l'avais dit là pendant ce matin, avant même la sortie du projet à l'ITFA à Amsterdam, qui est le Festival International du Documentaire, où on a, à l'époque, on cherchait éventuellement des diffuseurs potentiels à l'étranger. Donc on se retrouve dans une salle avec une table ronde, avec les plus grands pontes du documentaire mondial, avec la BBC, tout ça. Et on s'est fait envoyer sur les roses par la BBC en disant, mais... pourquoi vous, Français, déjà, vous allez aux États-Unis raconter la prison ? On dit, pourquoi pas, après tout. Hein. Pourquoi vous n'allez pas raconter les banlieues ? Les banlieues, on a tous fait, David comme moi, des sujets là-dessus. Et pourquoi on n'aurait pas le droit d'aller voir les prisons ? Et pourquoi on n'aurait pas le droit de le raconter d'une façon différente ? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire ? En fait, c'est ça. Il n'y a rien. Rien ne nous empêche. On a un espace libre, on en profite, on investit et on cherche.
Sur la carte de visite du Riviera, il était écrit... L'hospitalité est notre affaire. On aurait dit le slogan du comté. Ensuite, elle nous a dit de rester, qu'on verrait débarquer des familles de prisonniers ce week-end, ici, au motel. Parmi elles, Brenda, dont on ne savait pas encore qu'elle allait bouleverser notre voyage. On a écouté la gérante, on a posé nos valises.
Philippe Brun, en vous écoutant, donc on a l'impression que le web documentaire, ce serait une forme française, alors on serait pionnier
Non, le documentaire, c'est pas une forme française. Il y a des très très bons web documentaires, je pense, qui sortent, notamment, je pense, au territoire canadien, qui est très puissant. Il y a des Allemands qui ont fait des choses vraiment, vraiment bien. Mais c'est vrai qu'en France, on est quand même... On n'est pas à la dernière roue du carrosse, quoi. Je pense qu'on est assez innovateur là-dedans. Faut quand même, c'est pas chauvin de le dire, c'est une vraie vérité. En France, ça avance plutôt, plutôt bien. Aux États-Unis, il y a des choses qui sont des fois parfois plus classiques, qui sont de l'ordre un peu du presque du documentaire télé, avec, même si ça mélange photographie, vidéo, etc. Mais ça reste. Non, en France, on est bien. Je pense qu'on se situe bien. On est plutôt. On va plutôt de l'avant là-dessus, quoi. Mais c'est pas que français. Non.
Dans votre histoire de photographe, donc vous êtes allé au Guatemala, au Kosovo, donc sur des terrains chauds. Là, passer au web documentaire, c'est complètement différent. Sans parler du sujet, qui effectivement, c'était sans doute plus calme qu'à Guatemala City et au Kosovo, d'être dans ce Colorado-là. Mais vous avez utilisé la vidéo, vous avez utilisé le son, vous avez utilisé la photo, évidemment. Voilà, c'était là, pour le coup, il est question de la frontière dans ce séminaire. Là, vous étiez carrément à la frontière de plusieurs médiums.
Oui, à la frontière. Et puis, moi, il me semble qu'aujourd'hui, en fait, si moi, je veux continuer à exister en tant que photographe, j'ai besoin de franchir les frontières, justement. J'ai besoin d'investir d'autres terrains, j'ai besoin d'utiliser d'autres outils... Parce que ça me fait avancer personnellement. En fait, je ne dis pas que la photographie ne me suffit plus à l'heure du numérique. En fait, moi, j'ai besoin de, J'ai besoin d'utiliser l'appareil numérique pour ce qu'il offre aujourd'hui. Là, j'entendais Arnaud tout à l'heure qui parlait de l'immédiateté et de l'échange social que ça procure en montrant l'écran, etc. Je comprends absolument son point de vue. Je trouve ça extrêmement intéressant, son projet. Moi, ce qui me gêne avec le numérique, c'est ce rapport à l'écran, à l'immédiateté, en fait. Et du coup, je l'utilise parce qu'il a pour moi de meilleur, c'est-à-dire cette espèce de dualité entre photographie, vidéo, son, cette espèce d'outil multimédia qui a été créé, qui est en train d'avancer, on en sort de plus en plus, etc. Ça, je trouve que pour moi, c'est une véritable libération. Voilà. Mais oui, les frontières, je les franchis et je pense que j'étais arrivé à un stade de ma photographie où j'en avais besoin. Voilà. Mais je peux très bien repartir à la chambre 4-5 demain sans problème. C'est pas, voilà. Je n'ai pas du tout quitté ça non plus.
À Canyon City, tout le monde raconte la même histoire. Ni tout à fait exacte, ni vraiment fausse. Au 19e siècle, dit-on, la ville avait le choix de devenir la capitale universitaire du Colorado ou sa plus belle ville prison.
Je suis enseignante de lettres histoire en lycée professionnel, donc lycée professionnel Perdiguet qui est sur Arles. Alors moi je ne connaissais pas du tout ce web documentaire, d'abord parce que bon, j'ai pas trop le temps de regarder la télé, j'ai pas trop le temps d'aller sur internet non plus. En plus je suis assez nulle sur internet, donc je galère toujours avec l'outil. Voilà, et donc moi j'étais extrêmement intéressée donc, par le sujet. Le sujet qu'avant j'aurais vu sur un livre ou éventuellement effectivement sur un documentaire à la télé. Mais par rapport à mon public, c'est-à-dire à mes élèves, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de le pratiquer en séquence pédagogique pour travailler. Bon, d'abord parce que c'est un outil qu'ils maîtrisent beaucoup mieux que moi, hein, donc y compris les élèves de lycée professionnel. Et je dois faire une séquence sur l'argumentatif, donc c'est un sujet qui peut s'y prêter facilement, une séquence qui est toujours un peu pénible. Et là, enfin, il y a plein de... Ils adorent tout ce qui est interactif. Et bon, on a des salles vidéo maintenant, on est équipés. Et donc, je vais essayer de voir comment... Bon, le problème, ça va être de faire une séquence qui va durer 4 heures maximum. Voilà. Mais donc, oui, ça m'a donné des idées.
Ouais. Alors, on peut rentrer dans le détail, justement, de ces idées ou pas ?
J'ai pas encore construit la séquence, là. J'ai juste... Par contre, je me suis demandé... Voilà, au niveau légal, au niveau juridique, si je pouvais, donc je vais peut-être aller poser la question après aux organisateurs, si je pouvais le réutiliser en classe, mais je suppose que oui, puisque c'est sur le web. Voilà. Mais je suis tellement nulle en web que je ne sais pas ce qu'on peut utiliser, pas utiliser, etc.
On a senti dans les réactions, hein, quand il s'agissait de poser des questions donc à Philippe Brault, le co-auteur de Prison Valley, on a senti une espèce de suspicion très forte, à savoir, oui, est-ce que c'est pas de la fiction plus que de l'information ? Alors oui, vous me disiez ?
Non, j'ai dit ça, enfin, moi ça m'a un peu agacé ces réactions, hyper agressives, mais je dis ça, il y a un certain nombre de profs, pas tous, hein, qui sont un peu dans ce côté, je sais pas, un peu parano, et puis un peu, un peu élève en classe, quoi, qui critique pour critiquer, ce côté ado dont ils sont pas encore sortis, quoi. Voilà, enfin, moi, j'ai vécu comme ça, mais ça, c'est mon ressenti perso par rapport au milieu prof qui, des fois, m'agace un peu.
Par deux fois, hein, on a entendu le mot télé-réalité. Ah. Alors là, bon, c'était assez...
Moi, j'ai pas du tout compris le rapport avec la télé-réalité. J'ai pas compris ce qu'ils voulaient dire. J'ai pas compris non plus leur interrogation sur le documentaire et le récit. Parce que ça fait des années qu'on travaille sur le docu-récit... il y a toujours, c'est forcément un documentaire, il y a toujours, enfin c'est des débats qui datent d'il y a 40 ans quoi. Hein, est-ce qu'on montre une image ou est-ce que c'est le regard d'un auteur, forcément, il y a une fiction qui s'introduit. Moi j'ai pas du tout compris ce débat, je l'ai trouvé complètement obsolète. Et voilà, donc c'était un peu pénible quoi.
Vous pouvez toujours, si vous ne l'avez pas encore vu, suivre Prison Valley sur prisonvalley.arte.tv. Terminons cette première émission, consacrée au séminaire d'Arles, par le concours photo des lycéens 2011. À l'occasion des rencontres d'Arles, les lauréats de ce concours, qui mêle prix public et jury, étaient récompensés lors d'une petite cérémonie. On écoute Mathieu Huy, journaliste du magazine L'Étudiant, en charge du concours.
C'est la deuxième édition du concours cette année. C'est un concours organisé par le ministère de l'Éducation nationale et L'Étudiant, avec différents partenaires. Et donc le thème cette année, c'était au tableau. On a eu plus de 200 participants. Donc tous lycéens inscrits en France ou dans des établissements français à l'étranger. On a eu par exemple des jeunes qui venaient qui ont envoyé des photos inscrits au lycée français de Ghana, d'Accra au Ghana.
Donc concours français à déclinaison internationale, hein, puisque voilà, les lycées francophones peuvent participer. Ouais. Donc ce soir, il y a la remise de prix pour 4 des lauréats, 4 sur 200, 14, un peu moins de 220 photos. Comment s'est fait le choix finalement de ces lauréats?
Alors en fait, il y a eu deux moments de choix des lauréats. En fait, tout au long de l'année, les internautes pouvaient voter pour leurs photos préférées. Donc chaque mois, on a retenu 3 photos et une série, parce qu'il y avait 2 catégories. Il y avait une catégorie photo unique et série. Donc à la fois un vote par les internautes et un vote par les membres du jury. Une douzaine de personnes dans le jury ont aussi choisi leurs photos coup de cœur. Donc au total, on a 4 lauréats, 2 issus du vote des internautes et 2 choisis par le jury.
On remarque souvent hein, dans les festivals, notamment Tima, on va prendre cet exemple-là très concret, que entre la décision du jury et la décision du public, c'est rarement la même forme. Est-ce que là, ça s'est vérifié? Est-ce qu'on a affaire au même type de photos ou pas?
Alors là, justement, on a essayé de choisir 4 lauréats qui représentaient un peu la diversité des images qu'on a reçues. On a reçu beaucoup d'images très différentes. Et par exemple, là, dans les 2 lauréates qui sont ici aujourd'hui à Arles, représentent bien cette diversité, puisqu'il y en a une qui a travaillé en noir et blanc, plutôt dans une optique reportage, et l'autre qui a fait un montage en couleur, plus avec un gros travail de création numérique. Donc on pensait que c'était un bon résumé de la diversité des styles, en fait, des photos qu'on a reçues.
Donc un peu moins de 220 participants. Finalement, ça a l'air peu par rapport à la proportion de lycées en France.
En fait, par rapport à l'an dernier, on a eu un peu moins de participants, puisque l'an dernier, on avait eu près de 400 participations. Là, c'est vrai qu'on a choisi de faire un thème plus resserré, plus précis. Et je pense que ce choix-là, effectivement, a peut-être entraîné une baisse des candidatures. Mais en revanche, la qualité était tout à fait au rendez-vous. Donc on a un peu compensé la diminution du nombre de candidats. Mais on espère bien que pour la 3e édition, donc l'an prochain, sur le thème « Vide ton sac », on espère bien qu'on va encore attirer plus de participants.
On écoute maintenant Oliane, une des lauréates. C'est une surprise d'être lauréate du concours photo?
Oui, une surprise parce que je ne savais pas qu'il y avait un prix du jury. Je pensais que c'était que les internautes et j'y croyais plus du tout parce que ça ne marchait pas trop bien avec les internautes. Donc oui, une surprise.
Pourquoi avoir décidé de participer à ce concours photo déjà?
Mais j'ai pas décidé toute seule, c'était en fait un projet qui est entré dans le cadre du lycée, qu'il fallait faire avec les arts visuels. Donc il fallait participer et j'ai participé. Voilà.
Sur le thème, ça a été simple de trouver la photo?
J'ai réfléchi, j'ai eu quelques idées, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu fantastique. Donc j'ai fait un montage photo, j'ai rajouté des choses dans la photo et voilà.
Quand on dit montage photo, c'est-à-dire que c'est retravaillé, c'est pris en numérique, retravaillé sous ce fameux logiciel Photoshop?
Oui, Photoshop. J'ai retravaillé, j'ai rajouté, j'ai incrusté des images que j'ai trouvées sur Internet, j'ai fait des masques, etc. avec Photoshop.
Puisqu'on est ici aux Rencontres d'Arles, il y a énormément d'expositions. Est-ce que vous-même, vous avez l'habitude d'aller voir des expositions?
Jusqu'à présent, je ne suis jamais allée voir d'exposition. Je fais comme ça, je ne m'inspire pas d'autre chose. Voilà.
Marion est une autre lauréate du concours. Donc le sujet, c'était au tableau. Est-ce que vous avez eu du mal à rentrer dans ce sujet ou alors bien, c'est tout de suite venu
Non, c'est venu assez facilement en fait. Il y a des sujets qui m'inspirent, d'autres pas. Celui-là, j'ai tout de suite eu une image dans la tête. J'ai participé à 2 fois au concours. J'ai envoyé 2 photos. Il y en a une qui n'a pas été prise par les internautes et l'autre qui a été prise. Donc ça va.
Alors, on peut la décrire, cette photo? Et puis, finalement, avec quel appareil vous travaillez? Comment ça s'est passé?
Alors, moi, j'ai un bridge, mais je travaille...
On explique. Hein.
C'est avec un objectif intégré, on ne peut pas changer l'objectif. Et c'est un appareil photo plutôt d'amateur. Enfin, les professionnels utilisent des réflexes. Et je travaille presque jamais avec mon bridge. J'emprunte des réflexes à mes proches, puisque je ne peux pas encore m'en acheter un. La photo qui a gagné... C'est une de mes amies qui tend le bras avec une craie et qui regarde l'appareil avec la mise au point sur la main, qui donne un effet assez oppressant, avec la définition du tableau sur le tableau qui est derrière elle, en fait. Donc on retrouve l'aspect du tableau partout. Je voulais jouer avec les mots aussi, surtout.
Donc une photo vraiment composée. Vous avez finalement l'habitude d'en faire, de faire des compositions. C'est, votre regard a été aiguisé par bien les photos que vous voyez dans les expositions. Comment vous nourrissez en fait votre technique photographique et puis votre imaginaire.
L'inspiration, bah, je vois beaucoup de photos sur Internet, je vais beaucoup voir des expositions, mais j'ai pas l'impression de tellement m'inspirer en fait. Je m'inspire plutôt de choses que j'aime bien. Je me crée un univers plutôt que de m'inspirer d'univers qui existe déjà, je pense.
Ainsi s'achève cette première émission consacrée au séminaire national Voyage en photographie vers d'autres frontières qui s'est déroulé à Arles.